Journal du docteur Seward, 30 septembre. Mr. Harker est arrivé à 9 heures. Il avait reçu le télégramme de sa femme au moment de quitter Whitby. À le voir, on devine que c'est un homme extraordinairement intelligent et énergique. Si son journal dit vrai, et je n'en doute pas, si j'en juge par ce que je viens de vivre moi-même de stupéfiant, d'incroyable presque, il est également très courageux. Car il fallait beaucoup de sang-froid pour descendre une seconde fois dans ce caveau. Après avoir lu ce récit, je m'attendais à rencontrer un homme très fort, assurément, mais non ce monsieur parfaitement serein et ayant toutes les qualités d'un homme d'affaires avec qui nous avons déjeuné aujourd'hui. Plus tard, après le repas, Harker et sa femme sont remontés dans leur chambre, et comme je passais devant la porte il y a un instant, j'ai entendu qu'on tapait à la machine. Vraiment, ils sont tenaces. Selon l'expression de Mrs. Harker, ils mettent bout à bout, et dans un ordre chronologique, les moindres bribes de preuves qu'ils possèdent. Harker possède maintenant les lettres échangées entre ceux qui ont reçu les caisses de Whitby et la firme Carter, Patterson & Company de Londres. Il se propose de lire la transcription dactylographiée que sa femme a faite de mon journal. Je me demande s'ils y trouveront quelque chose qui puisse nous éclairer. Ah, le voici. Chose étrange. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que cette maison, dont le parc touche au nôtre, pouvait être celle qui sert de refuge au comte. Dieu sait pourtant que le comportement de Renfield aurait dû nous mettre sur la voie. À présent, nous sommes également en possession des lettres relatives à l'achat de la maison. Si nous les avions eues quelques jours plus tôt, nous aurions pu sauver la pauvre Lucie. Mais assez, on deviendrait fou. Harker est toujours en train de travailler. Il m'a dit que lorsqu'il descendrait pour le dîner, lui et sa femme seraient à même de nous présenter un récit assez cohérent de tous ces faits. Dans l'intervalle, il serait bon, selon lui, que je voie Renfield, puisque, jusqu'ici, il nous a somme toute inconsciemment avertis des allées et venues du comte. Je ne vois pas encore bien la possibilité de la chose, mais peut-être lorsque j'aurai comparé les dates. Il est heureux que Mrs. Harker ait recopié mon journal à la machine. Sans cela, nous n'aurions jamais retrouvé ces dates. Quand j'entrais dans sa chambre, Renfield était tranquillement assis dans un coin et il souriait paisiblement. À ce moment, il me sembla absolument sain d'esprit. Je m'assis et me mis à bavarder avec lui d'un tas de choses. En me répondant, il faisait preuve d'un réel bon sens. Puis spontanément, il parla de son retour chez lui, sujet que, à ma connaissance, il n'avait jamais abordé depuis qu'il séjourne ici. Je crois bien que si je n'avais pas eu cette conversation avec Harker et si je n'avais pas lu les lettres maintenant en ma possession, ni revu les dates auxquelles Renfield a eu ses différentes crises, je lui aurais permis de partir après quelques jours à peine de mise en observation. Quoi qu'il en soit, je me demande vraiment ce qui se passe. Toutes ces crises, j'en suis maintenant à peu près convaincu, avaient lieu lorsque le comte se trouvait dans le voisinage. Que signifient donc ces dispositions actuelles ? A-t-il d'instinct la certitude que le vampire finira par triompher ? N'oublions pas que lui-même mange les êtres vivants et que dans ses délires, devant la porte de la chapelle, de la maison abandonnée, il parlait toujours du maître. Cela pourrait confirmer nos suppositions. Mais je le laissais bientôt. Il me semble un peu trop lucide pour que l'on puisse sans danger lui poser des questions dont il devinerait le but. Se rendre compte de son état. Si jamais il allait se mettre à penser. Oui, je le laissais. Je me méfie de ces périodes de calme. Aussi ai-je dit au surveillant d'avoir l'œil sur lui et de tenir prête une camisole de force. Journal de Jonathan Harker, 29 septembre. J'écris dans le train qui me ramène à Londres, quand Mr. Bellington me fit aimablement savoir qu'il était prêt à me donner tous les renseignements qu'il possédait, je pensais que le mieux pour moi était de me rendre à Whitby. En effet, je voulais alors simplement, mais exactement connaître l'endroit de Londres où avait été expédiée la sinistre cargaison du comte. Plus tard, nous pourrions avoir à nous en occuper. Le fils Bellington, un charmant garçon, m'attendait à la gare. Il me conduisit chez son père où il avait décidé que je passerais la nuit. Je fus accueilli avec cette hospitalité propre au Yorkshire. On donne tout à l'invité et on le laisse faire tout ce qu'il veut. Comme chacun savait que j'avais à m'occuper de beaucoup de choses en un temps très court, Mr. Billington avait préparé tous les papiers concernant l'expédition des caisses. Je tressaillis quand je reconnus une des lettres que j'avais vues sur la table du comte à l'époque où j'ignorais encore ses plans diaboliques. Il avait pensé absolument à tout, agi avec précision et méthode. Il avait prévu, semblait-il, chaque obstacle qu'aurait pu rencontrer l'exécution de ses projets. Pour user d'une expression américaine, il n'avait pris aucun risque, et l'exactitude avec laquelle ses instructions avaient été suivies n'était que le résultat logique du soin qu'il avait mis à préparer toute cette affaire. J'eus la facture sous les yeux, et je remarquai tout particulièrement qu'il y était écrit 50 caisses de terre ordinaires destinées à certaines expériences. Mon hôte me montra également la copie de la lettre adressée à Carter, Patterson & Company, ainsi que la réponse de cette firme, et de ces deux lettres, il me remit une copie. Comme c'étaient les seuls renseignements qu'il pouvait me donner, je descendis au port afin d'interroger les gardes-côtes, les employés de la douane et le capitaine du port. Ils eurent tous quelque chose à dire au sujet de l'arrivée insolite de ce bateau mystérieux dont l'histoire appartient déjà à la tradition locale. Aucun d'eux, pourtant, ne put me donner la moindre explication quant au contenu des caisses, et je dus me contenter de la simple indication lue sur la facture. 50 caisses de terre ordinaire. J'allai ensuite trouver le chef de gare, lequel appela aussitôt les hommes qui avaient transporté les caisses. Ils parlaient eux aussi de 50 caisses, et ils n'eurent rien à ajouter sinon qu'elles étaient énormes et terriblement lourdes, et que les soulever, c'était un travail qui donnait soif. L'un d'eux fit remarquer que c'était vraiment malheureux qu'aucun gentleman, comme vous par exemple, monsieur, ne montrât sous une forme liquide qu'il appréciait leur effort à leur juste valeur. Un autre insista en disant que la soif que le transport de ces caisses leur avait donnée était telle que le temps écoulé depuis lors ne l'avait pas apaisée. Inutile de préciser qu'avant de les quitter, j'eus soin de tarir cette source de reproche. 30 septembre. Ce chef de gare me remit un mot d'introduction auprès de son collègue de King's Cross, de sorte qu'en arrivant à Londres ce matin, je pus immédiatement lui demander ce qu'il savait sur l'arrivée des fameuses caisses. À son tour, il fit venir les employés qui s'en étaient occupés et ceux-ci me dirent que leur nombre se montait à 50. Ici, aucune soif extraordinaire ne s'était manifestée. Cependant qu'elle fût extraordinaire ou non, à nouveau, je me sentis obligé de désaltérer ces braves gens. De King's Cross, je gagnai le bureau de Carter, Patterson & Company, où l'on me reçut très courtoisement. Après avoir recherché le dossier relatif aux transactions, les employés à qui je m'étais adressé téléphonèrent à la succursale de King's Cross afin d'obtenir des renseignements précis. Les camionneurs qui avaient transporté les caisses venaient de rentrer et on nous mit tout de suite en rapport. On avait confié à l'un d'eux la lettre de voiture et les autres documents concernant le transport des caisses jusqu'à Carfax. Ici aussi, leur nombre correspondait à celui indiqué sur la facture. De plus, les camionneurs se déclarèrent à même de me fournir quelques détails supplémentaires, mais ces détails, je m'en aperçus bientôt, concernaient seulement le grand inconvénient de ce travail, la poussière et la soif qu'il engendra. Lorsque j'offris à ces hommes l'occasion de soulager un peu plus tard et au moyen d'espèces sonnantes et de coupures qui circulent dans le royaume ce mal salutaire, l'un d'eux s'écria
« Cette maison, patron, y a pas que la poussière. C'est la plus bizarre que j'ai jamais vue. Parole, on dirait qu'on y est pour entrer depuis 100 ans. Mais la couche de poussière épaisse comme ça, nous aurions même pu nous coucher dessus et dormir sans nous faire mal aux os. Et tombant, comme on dit, en ruine, la maison qu'on y sentirait bien, la vieille Jérusalem, mais surtout la vieille chapelle, ça dépasse tout. Moi et ma camarade, on croyait qu'on n'en sortirait pas vivant, Seigneur, je n'aurais pas voulu rester là un instant de plus à la tombée de la nuit. »
Je le croyais volontiers, et s'il avait su tout ce que je savais, je crois qu'il aurait employé un langage plus expressif encore. En tout cas, je suis maintenant certain d'une chose, toutes les caisses arrivées de Varna à Whitby, à bord du Demeter, furent bien amenées dans la vieille chapelle de Carfax. Il doit y en avoir 50, à moins que depuis lors on soit venu en reprendre quelques-unes, ce que je crains, après avoir lu le journal du docteur Seward. Je vais essayer de retrouver le camionneur qui emportait les caisses de Carfax quand Renfield l'a attaqué. En suivant cette piste, peut-être apprendrons-nous encore pas mal de choses. Plus tard, nous avons, Mina et moi, travaillé toute la journée et tous les papiers sont maintenant en ordre.
Journal de Mina Harker, 30 septembre. Je me sens si heureuse que je peux à peine contenir ma joie. C'est sans doute la réaction normale à l'extrême angoisse qui ne me quittait plus. Je craignais que toute cette affaire, en rouvrant sa blessure, ne fasse grand mal à Jonathan. Quand il est parti pour Whitby, il paraissait réellement maître de soi, mais pour ma part, j'étais morte de peur. Dieu merci. Ses démarches et les efforts que, malgré tout, elles ont exigés de lui l'ont au contraire aidé à se maintenir dans ses excellentes dispositions. Jamais il n'a été aussi fort, aussi plein d'énergie, aussi résolu à aller jusqu'au bout de cette affaire. Le si bon et si cher professeur Van Helsing avait raison. Jonathan est profondément courageux, et plus les difficultés offrent d'obstacles, plus il les affronte hardiment, alors qu'elle laisserait sans ressort une nature plus faible. Il est donc revenu plein d'espoir et de détermination, et nous avons mis en ordre tous les documents. Ils sont prêts. Et je me sens également fort excitée. Je me demande s'il ne faut pas, après tout, avoir aussi pitié d'une créature traquée comme l'est maintenant le comte. Car cette créature n'a rien d'humain et ne ressemble même pas à une bête. Mais d'autre part, quand on lit ce que raconte le docteur Seward de la mort de Lucy et des événements qui suivirent, il est impossible d'éprouver pour Dracula la moindre pitié. Plus tard, Lord Godalming et Mr. Morris sont arrivés plus tôt que nous ne les attendions. Comme le docteur Seward était allé voir des malades et avait emmené Jonathan avec lui, c'est moi qui les accueillis. Cela me fut, je l'avoue, très pénible. Je me souvenais des espoirs de la pauvre Lucie, quelques mois seulement auparavant. Naturellement, elle leur avait parlé de moi, et il me sembla que le docteur Van Helsing, lui aussi, avait fait de moi un fameux éloge, pour reprendre l'expression de Mr. Morris lui-même. Les pauvres, ils ignorent que je sais qu'ils avaient l'un et l'autre demandé Lucie en mariage. Et comme ils croient que je ne sais rien non plus des affreuses circonstances de sa mort, ils n'ont pour ainsi dire parlé que de la pluie et du beau temps. Finalement, je pensais bien faire en les mettant au courant de la situation actuelle, sachant, d'après le journal du docteur Seward, qu'ils avaient assisté à la mort de Lucy, je veux dire sa mort véritable, je ne devais pas craindre de trahir prématurément un secret. Je leur expliquai que mon mari et moi, nous avions lu tous les documents, les avions transcrits à la machine et rassemblés. Et je leur en donnai à chacun une copie, afin qu'ils aillent la lire dans la bibliothèque. Lord Godalming me demanda « Et c'est vous, Mrs. Harker, qui avez tapé tous ces feuillets à la machine ?» Je répondis par un signe de tête affirmatif, et il continua. « Je ne vois pas très bien quel est votre but, mais vous avez tous été si bons, si dévoués pour moi. Le zèle dont vous avez témoigné depuis le début semble porter tant de fruits que tout ce que je puis faire, c'est avoir confiance et essayer de vous aider. J'ai déjà dû admettre certains faits, je le reconnais. D'autre part, je sais que vous aimiez ma pauvre Lucie. » Il se détourna et se cacha le visage dans les mains. J'entendais des sanglots dans sa voix. Dans un mouvement de chaude sympathie, Mr. Morris lui posa un moment la main sur l'épaule, puis sortit sur la pointe des pieds. Sans doute y a-t-il dans notre nature à nous, les femmes, quelque chose qui incite les hommes à s'abandonner devant nous à leurs émotions, à leurs douleurs, sans pour cela craindre de perdre de leur dignité. Car lorsque Lord Godalming se trouva seul avec moi, il se laissa tomber sur le sofa et ne chercha même plus à cacher son chagrin. Je vins m'asseoir près de lui et lui pris la main. J'espère qu'il n'a pas jugé cela trop familier de ma part et qu'il ne pensera jamais de la sortie. Plus tard, il se souvient de mon geste. Mais je suis injuste envers lui. Je sais qu'il est un vrai gentleman et qu'une telle pensée ne lui viendra jamais à l'esprit. J'aimais beaucoup Lucie, lui dis-je, et je sais ce qu'elle était pour vous, ce que vous étiez pour elle. Et nous étions, elle et moi, comme deux sœurs. Maintenant qu'elle n'est plus là, ne voulez-vous pas, à votre tour, me considérer comme une sœur? Je sais que deux grands malheurs viennent de vous atteindre. Si ma sympathie profonde peut soulager si peu que ce soit votre chagrin, laissez-moi vous aider. Le pauvre garçon, alors, eut une véritable crise de larmes. J'éprouvais pour lui une pitié infinie. Et, sans réfléchir à ce que je faisais, j'ouvris les bras. En sanglotant, il appuya la tête contre mon épaule. Secoué par l'émotion, il pleura longtemps, comme un enfant. Chez toutes les femmes aussi, l'instinct maternel s'éveille dès que l'on fait appel à leur protection. Je sentais cet homme qui sanglotait sur mon épaule et j'avais l'impression que c'était le bébé que je porterais peut-être un jour. Et je caressais ses cheveux comme j'aurais caressé les cheveux de mon propre enfant. Au moment même, je ne compris pas combien tout cela était étrange. Enfin, ses sanglots se calmèrent et il releva doucement la tête en s'excusant, encore qu'il ne fit rien pour cacher son découragement, son désespoir. Il m'avoua que depuis des jours et des jours, il n'avait pu adresser la parole à personne, alors que dans son deuil même, un homme doit s'entretenir avec ses semblables. La société d'aucune femme ne lui faisait de bien. Et d'autre part, il lui était impossible d'avoir avec aucune d'elles une conversation amicale, à cause des circonstances terribles qui avaient aggravé sa douleur. « Je sais à quel point j'ai souffert, » dit-il en s'essuyant les yeux. « Mais le bien que vous m'avez fait aujourd'hui est si grand que je le crains. Je ne puis pas encore l'apprécier à sa juste valeur. Et personne ne le comprendra jamais assez. » Pour moi, je le sens. Un jour viendra où je le comprendrai pleinement et ma reconnaissance envers vous, croyez-le, sera d'autant plus profonde. Désormais, vous me permettrez d'être un frère pour vous, n'est-ce pas? En mémoire de Lucie, répétai-je comme nous nous serrions les mains. Et aussi, à cause de ce que vous êtes vous-même, ajouta-t-il. Car, si quelqu'un a jamais mérité de gagner la gratitude et l'estime d'un homme, vous venez de gagner les miennes. Si, à l'avenir, vous avez jamais besoin de l'aide d'un ami dévoué, ce ne sera pas en vain que vous ferez appel à moi. Dieu veuille que vous ne connaissiez jamais de jours sombres. Mais si cela devait arriver, promettez-moi que vous me le feriez savoir. Il parlait avec sérieux et le cœur déchiré, comme au premier jour, et je sentis que le mot qu'il attendait de moi le réconforterait. « Je vous le promets, » dis-je. Dans le corridor, j'aperçus Mr. Morris devant une des fenêtres. Quand il entendit mes pas, il se retourna et me demanda aussitôt « Comment va Arthur ?» Remarquant alors que j'avais les yeux rouges, « Ah, je vois que vous l'avez réconforté, le pauvre garçon. Il en avait bien besoin. Il n'y a qu'une femme pour adoucir le chagrin d'un homme. Et la tendresse féminine lui était... » Lui-même supportait sa peine avec tant de courage que j'en souffris plus que je ne pourrais le dire. Je vis la liasse de feuillets dans sa main et je me rappelais que lorsqu'il les aurait lus, il saurait que j'étais au courant de tout. Alors je lui dis « Je voudrais tant réconforter tous ceux qui ont de la peine. Permettez-moi d'être pour vous une amie. Une amie que vous viendrez trouver quand vous aurez besoin de soutien. Vous comprendrez plus tard pourquoi je vous parle ainsi. Il s'inclina et me baisa la main. Mais au fond, je me sentais si faible. Moi qui voulais soutenir cet homme généreux et désintéressé, je ne savais comment lui témoigner mon admiration et dans un soudain élan d'enthousiasme, je l'embrassai. Les larmes lui vinrent aux yeux et l'espace d'un moment, l'émotion l'empêcha de parler. Pourtant, il se ressaisit et me dit « Petite fille, vous ne regretterez jamais de vous être montrée si bonne pour moi, jamais, aussi longtemps que vous vivrez. » Puis, il alla dans le bureau retrouver son amie. « Petite fille ?» Les paroles mêmes qu'il avait dites un jour à Lucie. Mais lui-même, quel ami il avait été !